Chapitre 4. Paradis perdu. 17 avril 2010. Je l'attendis longuement au guichet d'embarquement d'Air Canada. J'essayais de l'appeler, mais son téléphone était coupé. Finalement, elle m'envoya un message. Désolé, je ne viendrai pas. Pardon. J'essayais de l'appeler de nouveau, mais le téléphone était déjà fermé. Elle ne l'avait visiblement rallumé que pour m'envoyer ces quelques mots lapidaires. Notre dernier échange datait de la veille au soir, par texto. J'avais pris de ses nouvelles, elle me disait avoir atterri de son vol Chicago-Montréal avec beaucoup de retard et qu'elle était chez elle en train de faire sa valise. En réalité, elle n'avait jamais eu l'intention de venir avec moi à Harbour Island. J'obtiendrai, quelque temps plus tard, des explications dans une lettre manuscrite laissée à la réception du Ritz-Carlton et dont il est inutile que je fasse ici mystère. Reagan était mariée et mère de deux enfants, je n'étais qu'une aventure extra-conjugale à la faveur d'une escapade new-yorkaise avec des copines. Ces deux séjours chez moi, effectués sous couvert d'une grand-mère souffrante dans la campagne ontarienne, elle n'avait jamais su comment me le dire, elle s'était laissée emporter par ses sentiments avant de se rendre compte qu'elle ne se voyait pas tout plaquer sur un coup de tête. Sur le moment, dans le hall de l'aéroport de Montréal, je restais hébété à regarder mon écran de téléphone, jusqu'à ce qu'une employée de la compagnie aérienne m'arrache à mon abattement. « Monsieur, nous allons fermer l'enregistrement. Que voulez-vous faire ?» Je décidai de partir quand même. Sans doute une tentative de fuite. Je me retrouvais donc seul à bord d'un vol à destination de Nassau, pendant lequel, pour célébrer mes retrouvailles avec mon ami La Solitude, je descendis une bouteille de champagne, suivi de plusieurs de ces mignonnettes de whisky auxquelles l'aviation commerciale nous a condamnés. Une fois aux Bahamas, j'embarquai à bord d'un petit coucou. Après 20 minutes de vol, je rejoignis une petite île posée sur une eau turquoise. J'étais arrivé à Harbour Island. Ce petit paradis serait mon nouvel enfer. Et pourtant, imaginez un hôtel de luxe niché au milieu d'une végétation tropicale. Le bâtiment principal était ceinturé d'un parc aux allures de jardins botaniques dont les bassins couverts de nénuphars constituaient le royaume de poissons multicolores et de tortues d'eau. Les chambres, elles, consistaient en des bungalows isolés les uns des autres, les pieds dans l'eau, offrant à leurs occupants une sensation d'intimité absolue. La clientèle affectionnait le service haut de gamme, mais surtout l'extrême discrétion de l'établissement. Car personne ne venait seul à Harbour Island. J'étais cerné par des couples. Des amants discrets, des adultères brûlants, des vieux couples ronronnants et des couples naissants qui s'embrassaient à pleine bouche au restaurant, mettant à rude épreuve la patience de leurs serveurs qui attendaient qu'ils veuillent bien se rendre chacun leur langue pour articuler leurs commandes. Je remarquai même un ménage à trois complètement décomplexé. Et au milieu de ce petit monde, je mangeais tout seul. J'étais sans doute le premier crétin dans l'histoire de cet hôtel à être venu ici en célibataire. J'aurais pu faire mes valises sur le champ et rentrer à New York. J'eus pourtant la faiblesse de croire que les palmiers et la mer me feraient le plus grand bien. Mais que vous affrontiez une déception sentimentale vautrée sur votre canapé ou sur une chaise longue, le résultat est exactement le même, vous déprimez. Et le désœuvrement des vacances balnéaires n'arrangeait rien. Sur ma plage, je ne cessais de penser à Reagan. Tout se bousculait dans ma tête. J'avais besoin de compagnie et je me mis en recherche d'une oreille compatissante. Je me retrouvais au bar de l'hôtel, mais le barman n'avait pas le temps, tandis que sa collègue m'évitait, pensant que je voulais la draguer. Assis au comptoir en compagnie de ma bière, j'imaginais Harry Kéber, vêtu d'une chemise à fleurs, s'installant à côté de moi. Il m'aurait donné une tape sur l'épaule et m'aurait soufflé « Marcus, Marcus, Marcus », ce qui laissait augurer d'une petite leçon de vie dont il avait le secret et dont j'aurais eu grandement besoin en cet instant. Que m'aurait-il dit? Quelque chose du genre « Marcus, qu'est-ce que vous fichez accoudé à ce bar à vous morfondre? Ce n'est pas parce que vous êtes seul sur une île que vous ne pouvez pas être en compagnie de quelqu'un. Savez-vous que l'appareil qui se trouve dans votre poche et qu'on appelle téléphone permet de contacter des gens à distance? Des amis, par exemple. Un ami, Marcus, c'est quelqu'un qui n'est ni votre psy, ni votre mère. Laissez donc ce pauvre barman tranquille, voulez-vous, et allez donc appeler un ami, ça vous fera du bien. Il n'y avait qu'une seule personne auprès de qui j'avais envie de m'épancher, le sergent Perry Gallwood. Mais jusque-là, quelque chose m'avait retenu de lui téléphoner. Je crois que j'avais honte de m'être fait salement jeter. Encouragé par l'esprit de Harry, je décidai de lui passer un coup de fil. « L'écrivain !» me répondit-il d'une voix anormalement enjouée. J'aurais dû comprendre que quelque chose n'allait pas. Gallwood n'était jamais jovial, surtout avec moi. Ça faisait partie du personnage. S'il m'arrivait de l'appeler deux fois dans la même semaine, il me donnait du « j'espère que c'est une urgence » pour me déranger aussi souvent. J'aurais dû percevoir ce jour-là que sa façon inhabituelle de me saluer trahissait le besoin de se confier. Mais je ne percutais pas, trop obnubilé par ma minable histoire. « Bonjour, sergent, comment allez-vous »
« C'est à vous qu'il faut poser la question, l'écrivain. Comment ça se passe aux Bahamas? Faites-moi rêver. Ici, il pleut des cordes et il fait glacial. »
Je contemplais le cadre idyllique dans lequel je me trouvais et j'éprouvais soudain de la gêne à me plaindre. Je n'osais pas lui révéler ce qui s'était passé avec Regan. « Tout va pour le mieux, » mentis-je. « Chaleur tropicale, endroit de rêve. Que demander de mieux ? Je suis au bar de l'hôtel, je sirote une bière. Je pensais à vous et j'ai eu envie de vous passer un coup de fil. » Pour toute réaction, il n'y eut qu'un long et étrange silence. Puis Gallwood me dit d'une voix hésitante,
« Vous savez, l'écrivain, quand vous êtes venu à la maison l'autre soir, à l'anniversaire de ma fille... »
Il s'interrompit. Je sentis qu'il avait envie de m'ouvrir son cœur, mais il se ravisa.
« Ça m'a fait plaisir que vous soyez venu.
Est-ce que tout va bien, sergent ?»«
Tout va bien. »
Nous raccrochâmes. Cet appel avait été un rendez-vous manqué à 4000 kilomètres de distance. Chacun avait besoin de l'autre, mais nous étions dans l'incapacité de l'exprimer. Je l'ignorais encore à cet instant, mais Gallwood m'avait répondu depuis sa voiture. Il était garé dans une rue du centre-ville de Concorde et observait, à travers la baie vitrée d'un restaurant, sa femme qui dînait en tête-à-tête avec un homme. Elle lui avait menti une fois encore, sous prétexte de devoir rester tard au bureau. Gallwood s'en doutait depuis quelques semaines, il en avait à présent la confirmation, Hélène le trompait. Les jours s'égrenèrent et mon séjour à Harbor Island arriva enfin à son terme. Je passai ma dernière soirée dans mon bungalow. En rassemblant mes quelques affaires, je trouvai, au fond de mon sac de voyage, un carnet de notes que j'avais oublié depuis longtemps. En le feuilletant, j'y découvris, coincé dans la reliure en cuir, une photo datant de 20 ans. On m'y voyait au milieu de ma famille de Baltimore, mon oncle Saul, le frère de mon père, tante Anita, et mes cousins Woody et Hillel. Je souris à ces êtres figés sur papier glacé. Je les avais tous tant aimés. Je fixai longuement le cliché, ne pouvant m'empêcher de penser au drame qui les avait frappés. Je sortis sur la plage dans la nuit. Sur le sable, je pouvais distinguer des crabes de cocotiers qui couraient entre les arbres et l'océan. À l'horizon, une série de points lumineux. Cela ne pouvait pas être la Floride, qui, bien que toute proche, était trop loin. Je me plus néanmoins à imaginer que ce fut Miami, où je conservais tant de souvenirs familiaux. Mon oncle Saul y habitait toujours, dans sa petite maison de Coconut Grove, entourée de manguiers. J'allais régulièrement lui rendre visite, mais entre la parution de La vérité sur l'affaire Harry Kébert et le tournage, il y avait longtemps que je ne l'avais vu. J'eus envie de l'entendre, et je l'appelai aussitôt. Il avait une bonne voix.
« Oncle Saul, ça fait un bail ?»
lui dis-je. « Je sais, le temps passe si vite.
Et tu n'es pas venu sur le tournage du film ?»«
C'est mieux comme ça. Merci encore pour les billets d'avion. J'espère que tu ne m'en veux pas de t'avoir fait faux bond. »
« Non, je comprends. Oncle Saul, je voudrais venir te rendre visite. »«
Avec plaisir. Quand ça ?»«
Demain ?»«
Demain, si tu veux, »
me dit-il un peu surpris.
« En fait, ce serait merveilleux. »
Mon oncle et sa famille avaient énormément compté pour moi. Nous les appelions les Goldman de Baltimore, ceux qui avaient tout réussi, par opposition à ce que nous étions, mes parents et moi, les Goldman de Montclair. Ce livre n'a pas vocation à raconter le destin des Goldman de Baltimore, mais je dois les mentionner ici car je me rends compte aujourd'hui que c'est probablement cette nuit-là, à Harbor Island, que s'instilla dans mon cerveau d'écrivain l'idée de leur consacrer un livre que j'écrirai finalement 2 ans plus tard, le livre des Baltimore.